Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Les livres ont ce pouvoir formidable de parfois nous rappeler les grands moments de l'histoire qui ont été un peu oubliés. C'est le cas cette semaine avec notre invité, l'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert. Dans son nouveau roman, paru sous le titre « Avant que les ombres s'effacent » chez Sabine Vespiézer, éditeur, il revient en effet sur le rôle exceptionnel qu'a joué son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en 1939, l'État haïtien a voté un décret-loi autorisant la naturalisation immédiate à tous les Juifs qui le souhaitaient. Un geste fort de fraternité, d'humanité envers un peuple en danger. Ancré dans un contexte historique réel, le récit est néanmoins très romanesque et raconte l'épopée d'un jeune Polonais chassé d'Allemagne en raison de sa confession juive et qui, grâce à une communauté haïtienne, va réussir à s'échapper de l'enfer nazi pour être accueilli bras ouverts à Port-au-Prince. Leçon de vie, de courage, de mémoire, ce roman ne manque pas de faire écho à une actualité contemporaine bien inquiétante. Rencontre. Bonjour Louis-Philippe d'Alembert.
Bonjour.
Qui est Ruben Schwarzberg, né à Lodz en Pologne en 1913 et qui en 2010 raconte sa vie à sa petite cousine sur les hauteurs de Port-au-Prince en Haïti?
Il est né effectivement, comme vous l'avez dit, à Lodz en Pologne en 1913 et puis il va connaître, comme beaucoup de familles juives à l'époque, toute une série de péripéties. Il va d'abord, en 1918, au moment où il a 5 ans, partir avec sa famille à Berlin. Il s'installe à Berlin et 20 ans plus tard, ils vont être obligés de repartir. Mais sauf que la famille qui est très très liée, qui vit comme une espèce de tribu soudée, va, je dirais, exploser quelque part. Et la sœur, qu'il appelle petite mère, va partir aux États-Unis avec son mari, sa mère et son père aussi, ses grands-parents, et sa tante va partir en Palestine. Et puis, il reste lui avec son oncle. Et c'est là que commence une forme d'errance, parce que ils vont d'abord être internés à Buchenwald, et puis de Buchenwald, ils vont sortir pour aller et prendre un bateau qui s'appelle le Saint-Louis, c'est un fait historique, pour partir vers Cuba. Arriver à Cuba, on n'en veut pas. Ils essaient d'aller aux États-Unis, on n'en veut pas non plus, et puis au Canada, et ils finissent par revenir à Paris. Et à Paris, là, ils tombent sur la petite communauté haïtienne, et c'est vraiment là qu'il va faire la rencontre d'Haïti, quoi.
Est-ce que pour vous c'est un personnage emblématique?
Ah oui, oui, il y a une espèce de résonance, si vous voulez, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Au départ, mon idée c'était quoi? Mon idée c'était de dire que Haïti a quand même réalisé un certain nombre de choses dans le monde pour que quand on parle d'Haïti, on ne parle pas seulement, on ne nous sorte pas toujours les mêmes stéréotypes, la même pauvreté, les mêmes catastrophes naturelles, etc. Donc je voulais montrer que Haïti avait réalisé un certain nombre de choses. Avait sauvé des gens pendant cette Seconde Guerre mondiale, avait déclaré, comment dire, la guerre à l'Allemagne, entre autres, et envoyé un certain nombre d'Haïtiens dans la guerre, dans les rangs français ou dans les rangs états-uniens, par exemple. Donc, il y en avait des gens.
Mais est-ce que la nouvelle génération en Haïti connaît cette histoire, connaît le courage de ce pays qui, donc, le 12 décembre 1941, fait déclaration de guerre contre l'Allemagne, l'Italie et le Japon?
Oui, le Japon, ça a été 4 jours avant, et après, il y a eu, comment dire, l'Allemagne et l'Italie. Ça, comment dire, les Haïtiens le savent. Mais les Haïtiens le savent, et il y a toujours cette forme d'autodérision, et ça se termine, bien entendu, en blague en Haïti, mais tout le monde le sait, et on est partagé entre l'humour, entre...
Et c'est quoi la blague? C'est de dire que c'était quand même un peu le combat de David contre Goliath,
contre Goliath,
c'est ça?
Oui, à la limite, on en serait encore fiers. Non, c'est que l'état-major nazi se réunit, et puis il y a Hitler, Goebbels, Himmler, tout le monde est là, et puis à un moment donné, ils disent, il y a une carte du monde, il y a un nouveau pays qui nous a déclaré la guerre, et ils cherchent ce pays sur la carte, et il est tellement petit qu'il ne le voit pas. Et puis après, Goebbels dit à Hitler, il faut soulever la baguette, c'est sous la pointe de la baguette, c'est tellement... Donc, on fait des blagues avec tout ça, mais on en est fiers aussi d'une certaine façon. Et je voulais montrer ça. Et puis, mais en même temps, en écho, il y avait toujours dans ma tête l'histoire qu'on vit aujourd'hui. Tous ces réfugiés qui arrivent ici en Europe, par exemple, dont on ne veut pas, ou parfois qui on tend la main, mais et ça dépend. Et donc, il y avait ça en résonance. Pour moi, c'est effectivement un personnage emblématique, oui.
Donc, c'est une vie très rocambolesque, celle d'un homme qui échappe à l'enfer de la guerre, au lynchage, à la déportation, au camp de concentration, grâce à la bienveillance de plusieurs personnes qui s'avèrent être haïtienne. Parce que la grande force de ce roman, c'est de nous rappeler le lien puissant qui existe depuis longtemps entre Haïti et la communauté juive. Comment expliquer cette fraternité ?
Je crois qu'il y a un élément fondamental. C'est, je dirais, les circonstances de la création de l'État haïtien, qui est né sur les ruines, on va dire, de la colonisation et de l'esclavage. Et ça a créé tout de suite une grande solidarité, aussi étrange que cela puisse paraître, avec tous les peuples qui souffrent, sauf que Haïti n'a pas les moyens de sa politique, de cette politique de solidarité. Mais dès le départ, par exemple, on va voir au 19e siècle des libérateurs comme Simon Bolivar, comme José Francisco Miranda, et plus tard José Martí, Antonio Maceo, les Cubains. Tous vont partir d'Haïti. Ils vont partir d'Haïti avec des armes, des hommes, des bateaux, de l'argent pour aller libérer leur pays et abolir l'esclavage. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inscrit, je dirais presque, dans, je vais utiliser le mot ADN, on va dire, du peuple haïtien. Et tout de suite, à partir du moment où ça s'est passé pour les Juifs en Europe et notamment en Allemagne, il y a eu cette forme de solidarité. Et n'oubliez pas, par exemple, il y a un livre qui sert de fil rouge dans le roman
De l'égalité des races humaines, qui est un texte de 1885.
Un texte de 1885, oui.
De Anténor Firmin.
Ce texte d'Anténor Firmin a été écrit en réponse à Joseph de Gobineau, et qui avait écrit l'essai sur l'inégalité des races. Et ça a été un Haïtien en 1885 qui a fait une thèse à la Sorbonne et qui va répondre à Gobineau. Et puis, très vite, dans le roman, j'imagine que l'oncle de Ruben Schwarzberg, venant à Paris, il est commis voyageur, il tombe sur les quais de Seine, sur un exemplaire de ce livre-là. Il connaissait le français. Dans la famille, ils sont très francophiles, surtout la mère. Ils vont tous lire le livre dans la famille. Et puis, Ruben va apprendre à lire dans ce livre-là. Donc, dès le départ, il a un lien assez fort avec Haïti. Mais dans la réalité, il y a toujours eu cette solidarité. Et il faut savoir aussi, par exemple, que c'est l'un des écrivains haïtiens les plus connus, Jacques Roumain, par exemple, qui, déjà à Paris, va dénoncer ce qui se passait en Allemagne, notamment quand il y a eu ses expositions sur les arts dégénérés et en Allemagne, ensuite sur la musique dégénérée qui était, d'après les nazis à l'époque, c'était de la musique bolchevique de juifs et de nègres, quoi. Donc qui était le jazz. Donc, et Roumain fait partie, parce que Roumain connaissait très bien l'allemand, il avait étudié en Suisse et alémanique, donc il fait partie de ceux qui avaient dénoncé dès le départ en 1937 déjà ce qui se passait. C'est ce qui explique qu'en 38, Haïti, après l'échec de la conférence d'Évian, va proposer, avec le Chili aussi notamment, d'accueillir 50 000 juifs, une proposition qui avait été farouchement combattue par les États-Unis.
Oui, et il va même aller plus loin, puisque Haïti va adopter en 1939 ce décret-loi qui octroie la naturalisation haïtienne immédiate à tous les juifs désireux de l'obtenir. À ma connaissance, aucun autre État n'a eu ce courage ni cette générosité. Est-ce que beaucoup ont eu la chance de profiter de cette offre ?
Il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques centaines. On va dire, d'après les chiffres que j'ai eus, près d'un millier, entre 800 et 1000, et plus ou moins, parce que bon, après, les gens avaient commencé par partir ailleurs. Et puis, il faut dire aussi, disons, les choses telles qu'elles sont, les gens, même s'ils fuyaient, même s'ils avaient peur, mais ils cherchaient des endroits comme les États-Unis, comme des pays qui étaient beaucoup plus accueillant, entre guillemets, économiquement pour eux. Donc, c'est ce qui était évident. Puis, comme c'était une espèce de bouche à oreille, tout le monde ne le savait pas non plus. Mais finalement, ça a été fait. Et puis, certaines familles ont pu échapper à l'enfer nazi, j'ai envie de dire. Et puis, aujourd'hui, il y a quelques grandes familles haïtiennes qui descendent de cette période-là.
Vous Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert, avec qui nous parlons de ce nouveau roman « Avant que les ombres s'effacent », qui raconte donc l'épopée incroyable de ce personnage romanesque, Ruben Schwartzberg. On l'a dit précédemment, il est né en Pologne, il s'est installé avec sa famille en Allemagne parce qu'il pensait que c'est un pays qui serait peut-être plus protecteur à leur égard, mais dès la nuit de cristal, en 1938, même si d'ailleurs il est sauvé du lynchage par la légation d'Haïti, force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc ses parents vont réussir à s'exiler, lui va être arrêté et déporté à Buchenwald. Et là, j'ai envie de dire, pour la troisième fois de sa vie, Ruben va être sauvé par un Haïtien, qui pourtant se fait passer pour un Américain d'ailleurs. Il se fait appeler Johnny. Son vrai nom, c'est Jean-Marcel Nicolas. Et il a vraiment existé, Louis-Philippe d'Alembert.
Oui, tout à fait. John Nichols, il se faisait appeler. Et puis donc, on finit par l'appeler Johnny comme surnom. Mais il a vraiment existé. Il a vécu à Paris. Et il a été dénoncé. Il aurait été dénoncé à l'époque, quand il est venu à Buchenwald. Il aurait été dénoncé par une maîtresse qui n'était pas très contente de son comportement, de son agissement. Et puis, qu'il a dénoncé, qu'il a balancé à la police française, qui elle-même l'a livré aux Allemands. Donc c'est un personnage qui a existé, mais je me suis permis, comme dans d'autres endroits du roman, quelques anachronismes. Par exemple, Jean-Marcel Nicolas a été interné à Buchenwald en 1944, et là je le place en 1939 pour les besoins de la narration, pour qu'il puisse rencontrer Ruben Schwartzberg. Mais il y a un autre élément sur lequel j'aimerais insister, parce que donc on est en train de parler de choses assez graves là au départ, c'est que j'ai voulu qu'il y ait beaucoup d'humour dans ce livre-là. Et j'ai beaucoup joué sur ce qu'on appelle l'humour ou les humours juifs, et qui pour moi est plus une forme d'autodérision qu'on rencontre beaucoup en Haïti d'ailleurs. Il m'a semblé là qu'il y avait quelque chose à faire, c'est-à-dire que écrire un roman tout en parlant de choses graves, mais avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, que les gens puissent y entrer, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je dirais, une ligne rouge à ne pas franchir, parce que c'est pas burlesque du tout, mais on lit, et j'évite, à chaque fois que je sentais que ça allait devenir trop lourd, je dirais trop grave, eh bien, je m'en sortais par une pointe d'humour. Et donc, c'est-à-dire, c'est un récit raconté sans pathos, à mon avis, sans dolorisme. Et puis surtout, finalement, c'est une histoire qui appartient à tout le monde, au fond. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça n'appartient pas à un peuple ou à une communauté en particulier. C'est dans le Talmud qu'on dit que quand tu touches à un homme, tu touches à l'humanité entière, en fait.
Une histoire qui appartient à tout le monde, mais qu'on est toujours heureux de découvrir, nous lecteurs, parce que certains pans de l'histoire peuvent nous échapper. Par exemple, grâce à Johnny qu'on vient d'évoquer, Ruben va réussir à quitter le camp de concentration avec son oncle. Bon, il va avoir l'espoir de quitter l'Europe sur le Saint-Louis, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais le bateau va être refusé par les autorités cubaines, donc il revient en France. Et à nouveau, grâce à la communauté haïtienne, il va connaître un certain répit, voire de vrais moments de bonheur, parce que avec ses amis, il mange bien, il va danser, il va connaître l'amour dans les bras d'une haïtienne. Et on se dit, tiens, Louis-Philippe d'Alembert, à cette époque, même menacé par la guerre, parce que vraiment les Allemands sont aux portes de Paris, il y avait une diaspora qui vivait heureuse.
Oui, mais pas que la diaspora haïtienne. Je crois que cette période, d'ailleurs je ne suis pas le premier à le dire, ça veut dire cette période qu'on appelle de l'entre-deux-guerres, ça a été une espèce de parenthèse enchantée pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on sortait d'une première guerre, on se disait que tiens, on peut pas connaître pire. Donc les gens, justement, comme ça arrive parfois, après les guerres, les gens se lâchent. Ils vivent à fond. Sauf que il allait y avoir une autre guerre. Et on se rend compte, et lui-même, le personnage de Ruben Schwartzberg, va se rendre compte bien des années après que ça a fait partie des plus beaux moments, des plus beaux mois de sa vie. C'était une espèce de parenthèse enchantée où il a tout connu. L'époque où Paris, dans Paris, ça swingait de partout. Il y avait du jazz.
Josephine Baker. Qui chante Haïti.
C'est son seul paradis, son désir. Et c'est une très belle chanson d'ailleurs. Il y a, comment dire, le bal nègre. Il y a d'autres chanteurs ou musiciens comme Paul Robeson, qui avait une voix de ténor très, très grave et très, très, très bon chanteur. Donc, c'est une période où ça swing de partout. Il y a des caves à jazz, où lui, il va grâce à Roussan Camille, qui est un autre poète haïtien, et qui est ce qu'on appelle en Haïti un bamboucheur, quelqu'un qui aime la vie, qui va dans les boîtes de jazz, écouter de la musique, courir les filles ou des choses comme ça. Et Ruben, il va s'ouvrir, il va se lâcher un peu, il va vivre. Et puis, il va, encore une fois, se rendre compte que ça a été une période merveilleuse, quoi.
Et après moult péripéties, il s'installe finalement en Haïti, dont il ne repartira plus. Alors je me demandais, Louis-Philippe d'Alembert, est-ce que c'était étrange pour vous de raconter d'un point de vue extérieur les raisons pour lesquelles un Polonais allemand tombe amoureux de l'île, de sa culture, de ses habitants, comme si vous regardiez d'un œil complètement neuf cette île où vous êtes né?
Oui, oui, ça c'est sûr, que surtout à une période où je n'étais pas encore né.
Oui, en plus dans les années 40, vous n'étiez pas donc, né, loin s'en faut.
Oui, il y a une part, j'ai envie de dire, est-ce que je peux dire de nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue, mais j'ai quand même connu un Port-au-Prince des années 60, où ce n'était pas encore cette ville tentaculaire que nous avons aujourd'hui. C'était une ville qui faisait moins de 800 000 habitants, donc qui était encore vivable, si vous voulez, avec un certain nombre de choses qui fonctionnaient. J'ai vu des trains dans Port-au-Prince. La génération d'aujourd'hui ne savent pas que ça existait. Donc, il y avait pour moi, quand je décrivais cette période-là, parler de ce Port-au-Prince-là, du Port presque que j'ai entreaperçu, mais dont ma mère et ma grand-mère surtout m'ont beaucoup parlé, quoi.
Justement, Ruben, lui, ne veut pas parler. C'est un homme plutôt mutique, qui tait beaucoup d'épisodes douloureux de son existence, et c'est grâce à donc la petite fille de sa tante, oui, qu'il va enfin se confier, parce que en 2010, cette jeune femme est aussi médecin comme Ruben. Elle vit en Israël et elle va faire partie des premiers convois qui se précipitent après la tragédie du séisme pour aider ce pays à soigner ses plaies et à se reconstruire. Et c'est seulement à ce moment de sa vie, donc il a déjà plus de 90 ans, hein, oui, qu'il accepte de se confier. Mais je me disais, Louis-Philippe d'Alembert, finalement c'est quand même très important de parler, de se souvenir, parce que ici c'est toute la grandeur d'un peuple à travers cette histoire singulière qui est honorée, et c'est bien que les nouvelles générations puissent s'en enorgueillir. C'était votre projet aussi?
Ça a été le projet, et c'est ce que j'allais dire, ça a été le projet de Ruben Schwarzberg aussi. C'était ça son idée. C'est-à-dire qu'au départ, comme vous l'avez si bien souligné, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, pour plusieurs raisons. Au départ, il était assez bègue, donc oui, il essayait de se contrôler pour ne pas avoir à parler beaucoup. Ensuite, c'est un scientifique. Donc c'est quelqu'un qui ne prend la parole que quand il sait exactement ce qu'il veut dire, et ainsi de suite. Et puis il arrive dans un pays où il a l'impression qu'il doit tout apprendre, hein, et il apprend. Il a commencé cet apprentissage à Paris déjà, à travers la gastronomie, à travers la musique, à travers, je dirais, la sexualité, donc cette femme qu'il rencontre. Et puis il va poursuivre cet apprentissage en Haïti à travers la langue créole et le vaudou, et aussi parce qu'il y a une espèce de baptême
qu'il va être initié.
Donc, à un moment donné, Ruben Schwarzberg fait partie de beaucoup, je dirais, de ces personnes-là qui ont vécu ce moment terrible et qui ont très peu parlé. Qui ont très peu parlé parce que, comme le disait entre autres Primo Levi, l'écrivain italien, c'est qu'à un moment donné, il se disait que peut-être personne ne les croirait. Donc, il n'avait pas tellement envie. Lui, c'est pas tellement que les gens ne le croiraient, c'est parce qu'il n'avait pas envie de charger ses enfants d'une histoire aussi lourde. Il voulait quelque part, d'une certaine façon, je dirais, les protéger. Et puis, à la fin, quand arrive cette catastrophe-là, et puis il se rend compte que finalement il est âgé, parce que le temps a passé très vite, hein, quand il est arrivé en Haïti pour lui, et là il se dit, tiens, il faut que j'en parle, mais il faut que j'en parle pour Haïti, pour qu'on sache, et pas tellement pour Israël ni pour le peuple juif, parce que ça a été raconté, fait, écrit, filmé, etc. Donc lui, il voulait et qu'on en parle aujourd'hui pour Haïti, que les gens le sachent, que les Haïtiens le sachent, qu'ils en soient fiers d'une certaine façon. Et quand effectivement Déborah arrive d'Israël, il faut savoir, là aussi dans la réalité, Israël a été le deuxième pays à atterrir en Haïti, avec un des contingents les plus importants de médecins, de secouristes, et là, il s'est dit, c'est le moment, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les ombres s'effacent, justement.
Merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert. Je rappelle donc le titre de ce roman formidable, Avant que les ombres s'effacent, qui est apparu chez Sabine Vespieser, éditeur, Une enfance haïtienne aux éditions Gallimard, et le recueil de poèmes En marche sur la Terre aux éditions Bruno Doucet. Merci.
Merci à vous.